France Inter.
France Inter, il est 7h.
Wow.
La grande matinale, Florence Paracuelos.
Lundi 20 octobre, bonjour à tous, bienvenue dans la grande matinale de France Inter. Cécile Bideau, bonjour.
Bonjour.
À la une ce matin, dans le monde entier, le musée du Louvre à Paris.
Visé hier par un cambriolage qu'aucun écrivain ou scénariste n'aurait osé imaginer. Ce matin, 8 bijoux faisant partie du trésor national manquent à l'appel. On vous raconte les 7 minutes vertigineuses de ce braquage. Au Proche-Orient, la trêve entre Israël et le Hamas a sérieusement vacillé ce week-end. La bande de Gaza sous les bombes, toute la journée d'hier. Nous sommes en direct de Jérusalem dans quelques minutes. Dans ce journal également, pour qu'il y ait un budget à Noël. L'examen du projet de loi de finances commence ce matin à l'Assemblée nationale. Au niveau local, c'est la taxe foncière qu'il faut payer avant minuit. Et puis les premières notes du futur album de Rosalia. La star espagnole sème quelques mystérieuses partitions de ses nouveaux morceaux que ses fans s'empressent de déchiffrer.
Nos invités sur France Inter ce matin, 7h50. Bonjour Benjamin Duhamel.
Bonjour Florence, bonjour à tous. Il est l'un des ministres les plus politiques de ce gouvernement, même s'il a promis de se mettre en retrait de ses activités partisanes. Quelle responsabilité des pouvoirs publics après le cambriolage du Louvre, à la veille de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Sera-t-il un détenu comme les autres? Le ministre de la Justice Gérald Darmanin est mon invité à 7h50.
Et à 8h20, on recevra Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur, dans le grand entretien de la matinale.
France Inter.
L'expression « casse du siècle », tellement utilisée qu'elle en est galvaudée, est aujourd'hui celle qui convient pour qualifier l'incroyable braquage qui s'est déroulé hier matin au Louvre. 4 malfaiteurs sont toujours recherchés ce matin. Il leur a fallu 7 petites minutes au cœur de Paris, en plein jour, alors que le musée était ouvert, pour dérober 8 bijoux inestimables, des joyaux de la couronne française, parures de saphir, colliers d'émeraude, diadèmes de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Le trésor était exposé dans la galerie Apollon, où les braqueurs ont pénétré en fracturant une fenêtre. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Minute par minute, revivons avec vous cet audacieux cambriolage.
9h30 hier matin, un drôle de convoi s'arrête sous la galerie Apollon, le long de la Seine. Un camion avec un monte-charge de ceux qu'on loue pour un déménagement, encadré par 2 puissants scooters, 4 malfaiteurs, visages dissimulés, certains avec un gilet orange comme des ouvriers, fracturent la fenêtre et menacent les gardiens avec leurs disqueuses avant de s'attaquer à 2 vitrines. Les gardiens évacuent les visiteurs et lancent l'alerte. 9h37, retraite précipitée. Les malfaiteurs ne parviennent pas à incendier le monte-charge. Ils s'enfuient en 2 roues avec 8 bijoux, mais laissent tomber la couronne de l'impératrice Eugénie.
Alors, la priorité ce matin, c'est évidemment de retrouver les braqueurs et les bijoux. Beaucoup de questions se posent aussi sur la sécurité du musée du Louvre, Sarah.
Oui, le ministère de la Culture et le parquet de Paris affirment que les alarmes situées sur la fenêtre et les vitrines ont bien fonctionné. Mais en interne, certains s'interrogent sur la solidité du dispositif. L'alarme qui se déclenchait de manière intempestive avait été un moment débranchée. Sans remonter jusqu'au vol de la Joconde en 1911, cette même galerie Apollon avait été victime d'un braquage par la même fenêtre en 1976. L'épée de Charles X n'a jamais été retrouvée. La sécurité du Louvre fait l'objet d'un plan de rénovation avec caméras de nouvelle génération et détecteurs de mouvements suspects. Ces derniers mois, le musée Cognac-Jay et le muséum d'histoire naturelle à Paris ont aussi été cambriolés.
Concernant le Louvre, la Cour des comptes doit publier un rapport sur le sujet début novembre. Nous avons pu nous en procurer un extrait. Il est inquiétant. Dans le secteur où s'est déroulé le cambriolage, un tiers des salles n'est équipé d'aucune caméra de surveillance. Précision à suivre dans le journal de 8h sur France Inter.
7h04 en attendant sur France Inter, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est-il toujours en vigueur?
La question est légitime après un dimanche de bombardements israéliens sur le territoire palestinien. Bilan, 45 morts selon la défense civile de la bande de Gaza qui opère sous l'autorité du Hamas et 2 soldats israéliens tués. La nuit dernière, Donald Trump a assuré que oui, la trêve était toujours d'actualité alors que son émissaire Steve Witkoff et son conseiller Jared Kushner arrivent aujourd'hui en Israël. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Cécile.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Quelle est la stratégie de Benjamin Netanyahou aujourd'hui?
Eh bien, c'est une trêve qui dure, mais une trêve armée. L'armée israélienne applique la même stratégie qu'au Liban depuis maintenant plus d'un an et se donne donc la possibilité de frapper où elle veut et quand elle veut, sans avertissement préalable. La reprise des combats aura duré hier une dizaine d'heures avant que les belligérants, sous la pression évidemment des médiateurs, ne mettent soudainement fin aux hostilités. Deux soldats israéliens, vous l'avez dit, ont d'abord été tués. Ça s'est passé à Rafah, au sud de Gaza, dans une attaque aux missiles anti-chars, selon l'armée de l'État hébreu. Le Hamas affirme ne pas être à l'origine de cet accrochage. L'aviation et l'artillerie israélienne ont ensuite répliqué. Au moins 45 morts dans cette série de frappes et c'est évidemment le premier gros coup de chaud depuis l'annonce du cessez-le-feu. C'était il y a 10 jours.
Et hier donc, Israël a suspendu le passage des camions d'aide humanitaire vers Gaza. Où en est-on ce matin, Thibault ?
Alors, les camions doivent entrer de nouveau dans Gaza ce matin. Israël est donc revenu sur sa décision, sans aucun doute sous la pression des Américains et de l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, vous l'avez dit, qui est en visite aujourd'hui dans le pays. L'armée maintient en revanche le terminal de Rafah fermé, empêchant ainsi les évacuations sanitaires et le retour des Palestiniens exilés d'Égypte. C'est une réponse au manque de volonté présumée du Hamas de rendre aux Israéliens les 16 dernières dépouilles d'otages toujours à Gaza. Le mouvement islamiste assure ce matin avoir localisé un nouveau corps, mais dit attendre que les conditions soient réunies pour le rendre.
Thibault Lefèvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Cette situation encore instable n'est pas de nature à lever les appels au boycott de produits importés d'Israël. En France, ils viennent d'associations, de collectifs de citoyens qui soutiennent le peuple palestinien, mais aussi de certains élus de gauche. À Rungis, cela se ressent dans les allées du principal marché de gros du pays. Ananas, clémentine, avocat, ce qui vient d'Israël se vend moins, à tel point que l'origine de ces fruits et légumes est parfois dissimulée. Reportage de Mathieu Bonnour.
Devant les étals de fruits et de légumes de toutes les couleurs, Marc-Eli observe, petite lunette sur le nez, le sac bien rempli.
Je regarde beaucoup l'origine, je ne consomme pas israélien, je boycotte tout simplement. Quand il n'y a pas le choix, j'achète. C'est qu'il y a des fois, il n'y a que du pamplemousse israélien sur tous les étals d'un marché, donc on n'a pas vraiment pas le choix.
Il se méfie. Lui qui a travaillé dans de nombreux marchés raconte, des commerçants cachent la réelle origine de certains produits avec une technique en cas de contrôle pour éviter les amendes.
Des fois, on dit qu'on a oublié de changer l'ardoise, comme en fait, les ardoises, ça se refait tous les matins. Des fois, on oublie juste de changer les ardoises. Elles restent comme ça deux ou trois jours.
Justement, les vendeurs proposent des avocats, des clémentines, des mangues. Origine, Afrique du Sud, Espagne, Pérou, jamais Israël n'est affiché. Mais derrière certains stands, lorsqu'on regarde de près les cartons jetés à la poubelle, sur l'étiquette, l'origine est bien israélienne, pas ce qui est affiché aux clients. Les commerçants sont nombreux à ne pas vouloir évoquer le sujet. Mohamed assume, chez lui, rien ne vient d'Israël. Choix politique et économique.
On a remarqué que les ventes des produits d'Israël, elles avaient beaucoup diminué. Leur clémentine a marché très très bien et d'un coup, elle s'est totalement arrêtée. Et du coup, on a décidé de complètement arrêter.
À Rungis aussi, personne ne veut aborder le sujet. Un importateur nous glisse discrètement. Oui, les ventes des produits israéliens sont en baisse d'environ 20% pour son entreprise depuis 2 ans.
Reportage à Rungis de Mathieu Bonnour. À l'Assemblée nationale, le marathon budgétaire ressemblera presque à un sprint. L'examen du projet de loi de finances pour 2026 commence aujourd'hui. Il a pris du retard avec la séquence chaotique de nomination du gouvernement. Le calendrier est très serré. Il faut qu'il soit achevé avant la fin du mois de décembre. À partir de 9h ce matin, la commission des finances examine le volet recettes avant une arrivée dans l'hémicycle vendredi. Et cet engagement pris par le Premier ministre de ne pas utiliser le 49.3. Il sera donc question d'impôts à l'Assemblée. Tandis que la taxe foncière est arrivée dans vos boîtes aux lettres si vous êtes propriétaire de votre logement principal. Ce soir à minuit, c'est l'échéance pour la payer. Et elle pèse lourd, cette taxe foncière, dans le budget des 57% des ménages qui s'en acquittent. De plus en plus lourd, malgré une petite accalmie cette année, Maxime Deps.
La bonne nouvelle pour les propriétaires, s'il en est une, au moins, c'est qu'elle n'aura pas flambé cette année.
Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des échéances électorales, la taxe foncière n'augmente pas.
Ou plutôt de seulement 1,7% en moyenne, explique Sylvain Grataloup, le président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Avec les municipales qui approchent, les maires prennent en effet soin de ne pas trop alourdir la facture de leurs administrés. C'est déjà ça et un moindre mal, selon lui.
On peut s'en réjouir pour cette année. Simplement, la taxe foncière a explosé sur une période de 10 ans de 37%, ce qui est phénoménal.
Une augmentation 4 fois supérieure à celle des loyers sur la même période, déplore l'association, ce qui interroge de plus en plus les propriétaires avec ce sentiment d'être pris en étau lorsque s'ajoutent les travaux de rénovation énergétique et tout le reste.
Cette taxe foncière qui est orpheline de la taxe d'habitation qui a été supprimée, devient un élément d'arbitrage. On dissuade de devenir propriétaire et on dissuade aussi de rester propriétaire.
L'Union nationale des propriétaires immobiliers qui plaide pour que les locataires participent eux aussi au paiement de la taxe foncière, comme cette dernière concourt à financer les équipements d'une commune dont ils profitent également. Ce serait pour l'UNPI un juste retour des choses.
Dernier jour de liberté pour Nicolas Sarkozy avant son incarcération. Un mois après avoir été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, l'ancien président de la République prendra demain ses quartiers dans une cellule individuelle de la prison de la Santé à Paris. Pas d'éléments de confort particulier, mais Nicolas Sarkozy bénéficiera d'une surveillance renforcée. Gérald Darmanin y veillera en tant qu'ami et garde des Sceaux, Maxence Lambrec.
Comme ministre de la Justice, je suis garant de sa sécurité. Gérald Darmanin n'a pas à statuer sur les conditions de sa détention provisoire, mais à la tête de l'administration pénitentiaire, il tient à ce que tout se passe bien dans un endroit où certains sont dangereux et ne lui veulent pas que du bien, euphémise son entourage, rappelant que depuis sa sortie de l'Élysée, il a toujours été sous protection policière, régulièrement menacé. Gérald Darmanin exprime en privé sa part d'affection, de tristesse même pour l'ancien président dont il a été le directeur de campagne. Après sa condamnation, selon Nouvel Obs, le ministre a été lui rendre visite en ami et a aussi appelé lui-même les magistrats pris pour cible afin de veiller à leur sécurité. Pas un mot sur leur jugement, simplement un constat. On est mauvais, très mauvais, dans la manière d'expliquer les condamnations. Il y a une révolution médiatique à mener, entend-on Place Vendôme, qu'un porte-parole, par exemple, puisse vulgariser les jugements, défendre le raisonnement autrement que dans un pavé de 300 pages.
Et je vous rappelle que Gérald Darmanin sera l'invité de Benjamin Duhamel à 7h50 sur France Inter.
Comment enflammer ses fans avant même de publier un nouvel album ?
La chanteuse espagnole Rosalia a trouvé, et ça se passe bien sûr sur les réseaux sociaux, elle distille en ce moment des extraits de partitions de ses futures chansons, des notes qu'évidemment tout le monde s'empresse d'interpréter à sa manière, Mathieu Culeron.
Une mystérieuse partition avec le visage en noir et blanc de la chanteuse espagnole en sous-impression a fait son apparition sur les réseaux sociaux mais aussi sur quelques panneaux publicitaires à Madrid et à New York. Un mot luxe accompagne la communication, tout indique que l'arrivée du nouvel album de Rosalia est imminente. Très vite, des internautes musiciens se sont emparés des partitions et ont commencé à déchiffrer et à jouer de la musique de la diva catalane. Des pianistes, des flûtistes, mais aussi des violonistes. La musique donne le ton de ce 4e album de Rosalia, moins pop, plus lyrique, symphonique, mais aussi très spirituel. Son titre Berghain porte le nom d'un célèbre club techno de Berlin, annonçant donc un disque très atypique de Rosalia qui devrait sortir début novembre prochain.
Jusqu'à la dernière note. Et eux sont des virtuoses du tennis de table. Les frères Lebrun continuent de mettre le ping-pong français en orbite. 27 ans après le dernier titre tricolore, les Bleus ont été sacrés champions d'Europe par équipe hier soir en Croatie.
Merci Cécile Bideau.
Le feuilleton de la France.
Épisode 71.
À Orsay. C'est le retour de notre série dans la vie des Français. Nous sommes ce matin dans une pharmacie familiale de la Vallée de Chevreuse à Orsay chaque jour. Derrière ce comptoir, Delphine et Nicolas, pharmaciens depuis 25 ans, rassurent et conseillent bien au-delà du médicament. C'est la mission des pharmacies qui disparaissent pourtant de plus en plus. 290 fermetures l'an dernier et ce sera sans doute pire cette année. Dans cette commune de 16 000 habitants, chacun mesure à quel point la pharmacie est un pilier du lien social indispensable au quotidien. Au générique, ce matin, Delphine, Vanessa, Nicolas, Marie-Hélène et Valérie. Le feuilleton de la France à Orsay, reportage signé Laurent Kramer.
Alors, je vais prendre votre carte vitale, s'il vous plaît. Alors, ok. Vaccin, on a fait ou pas encore? Vous avez reçu les papiers?
J'ai reçu, mais je ne sais pas.
Après, autant les autres années, on vous dit, il y a le temps, autant cette année, on est un peu plus prudent.
Non, il faut commencer.
Ouais, traînez pas trop.
Une pharmacie à l'écoute de chacun, ses parcours de vie, ses difficultés. Voilà comment Delphine définit ici son activité depuis 25 ans.
Écoute, je crois que j'ai pensé à tout. C'est des jumeaux, donc on les a vus naître.
Depuis qu'ils sont tout petits.
Vanessa vient ici depuis la naissance de ses jumeaux il y a 16 ans.
Il y a un peu d'intime, alors que ça reste derrière le comptoir, mais me sens bien accompagnée. Et puis, on a toujours été très aidés dans nos petites difficultés de santé. Voilà, c'est réconfortant.
En fait, il faut vraiment être avec nous pour comprendre ce qu'est le pharmacien de famille. On fait partie de leur vie, font partie de la nôtre. Toute leur vie nous touche. On s'attache les uns aux autres. Quand ce sont des lourdes peines, on les vit aussi avec eux, quoi.
Je pourrais en avoir d'autres.
Si j'en trouve, il faut que j'en trouve. Je ne sais pas comment. Donc, je m'entoure ça et je sais que je dois en chercher un ailleurs. Hop. Et puis, je vais essayer de trouver une solution pour trouver une deuxième boîte. OK.
Vous imaginez bien le stress en fait, du patient.
Comme tous les pharmaciens, Nicolas et Delphine passent 1 à 2 heures par jour pour s'approvisionner en médicaments. L'État est responsable, estime Nicolas, car en rabotant ainsi d'année en année le prix du médicament par mesure d'économie, les grossistes se détournent de la France et des pharmacies déposent le bilan, n'ayant plus de marge pour maintenir leur activité.
Donc l'État a raboté depuis 25 ans en fait, le prix du médicament. Plus on continue et plus on va se retrouver avec des disponibilités qui vont être de pire en pire, même sur des anticancéreux, même sur des traitements très lourds. On va avoir des ruptures qui vont être absolument dramatiques.
C'est encore là.
Marie-Hélène, elle est allée à la fête aux plantes de Saint-Jean-de-Beurgard. Elle est venue avec un gâteau aux noix parce qu'elle avait trouvé un gâteau aux noix. Elle s'est dit, tiens, ça va faire plaisir à la pharmacie.
Elle nous amène sa bonne humeur, sa joie.
Elle nous nourrit, Marie-Hélène.
Je suis très attachée aux personnes qui travaillent ici.
Jeune retraitée, Marie-Hélène vient ici depuis 15 ans.
Je suis la mère nourricière de cet établissement. Il y a du lien, il y a de la bienveillance. Pour un être qui vieillit, il y a de la bienveillance, donc c'est bien. Et puis ils prennent le temps, vraiment. C'est presque, ça pourrait être considéré comme une perte de temps. Mais au contraire, ça fait partie des soins, ça fait partie du lien, ça fait partie de la vie. C'est très important.
Prenez soin de vous.
Au revoir, ma belle.
Gros bisous.
Bah oui, forcément, tout se passe à la pharmacie.
Voilà. D'une manière générale, quand vous demandez à un patient s'il aime son pharmacien, il vous dit oh, oui, j'adore mon pharmacien. Il y a 2 semaines, une patiente que je connais très très bien, elle arrive en trompe dans la pharmacie et elle me dit je passe juste, j'ai laissé les enfants dans la voiture, mais je veux pas craquer devant eux, je veux pas pleurer devant eux, j'ai juste besoin de discuter un petit peu. Et elle me raconte, je connais sa vie, je sais la difficulté de sa vie. Allez, je reprends une bouffée d'oxygène et j'y retourne. Et très souvent, et ça aussi, c'est ma fierté, beaucoup de patients m'ont dit j'aime bien venir ici parce que je sens que vous ne jugez jamais. Donc ils peuvent me parler d'addiction, ils peuvent me parler de plein de choses. J'ai toujours que de la bienveillance parce que c'est un patient, je dois l'aider. Si je dois l'aider, il ne faut surtout pas qu'il se sente mal à l'aise quand il me confie des choses intimes. Et ça, je suis convaincue que c'est dans 9 pharmacies sur 10.
Mais c'est désormais une pharmacie qui ferme chaque jour en France, alerte Delphine et Nicolas, bien décidés à tenir bon pour ne pas perdre ce lien avec leurs patients.
Un reportage signé Laurent Kramer. Le feuilleton de la France continue demain dans un tout autre lieu puisque nous serons dans la chambre d'un ado en Gironde.
France Inter, 20h10, Eva Bester.
Ce lundi, avec le parfumeur Francis Curdjian, nous parlerons de fragrances, d'émotions, de fleurs et de beauté à travers son exposition au Palais de Tokyo.
La 20e heure, tous les jours à 20h10 sur France Inter.
Toyota. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ?
Ok, pile, on va profiter des reprises fantastiques chez Toyota.
Ouais.
Et face, on va profiter des reprises fantastiques chez Toyota.
Ouais.
Et si ça tombe sur la tranche, on va chez ta mère.
Ouais.
C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez profiter des reprises fantastiques jusqu'à 6000 euros pour la reprise de votre ancien véhicule.
Oh, dommage, je voulais tellement aller chez ta mère.
Toyota. Réservé aux particuliers pour toute commande d'un Toyota CHR9 avec reprise d'un véhicule de 5 à 10 ans jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
7h19 sur Inter.
France Inter, la grande matinale. Laurence Paracuelos.
Et d'ici 7h30, nous sommes avec qui ? Avec Dominique Seux, évidemment, et Aline Afanoukoué. Bonjour.
Bonjour Florence. Bonjour à tous.
L'édito éco, Dominique.
Eh bien, quelques heures avant la disparition des bijoux du Louvre, c'est le double A de la note française sur les marchés qui s'est fait la malle.
Musique, Aline, on écoute quoi ce matin ?
Je suis juste un super héros devant une super aide.
Oxmo Puccino vise droit vers la lune pour son 9e album avec des invités dont Turi qu'on entend là.